Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
Certains ne sont pas tendres avec leurs voisins. On en voit même à l'affût de la moindre haie qui traîne à être taillée, du bruit un peu fort dans l'appartement d'à côté. Est-ce que c'est de l'ennui ou de la colère qui ne se met pas au bon endroit ? Je ne sais pas bien. J'y pense puisque à l'autre radio, on a de la chance. Nos voisins, on les aime beaucoup, peut-être parce qu'aucune haie ne nous sépare. Un fin couloir seulement où on se croise, où on se sourit. On s'aime bien, quoi. Aujourd'hui, je ne l'ai pas invité seulement parce qu'il s'agit de notre voisin, mais parce qu'il va nous parler d'un chouette festival à Laval. Mon invité d'aujourd'hui est Baba Diawara et il va nous parler du festival J2K dans quelques instants. Un très beau moment pour parler avec vous, amis auditeurs, de ce qu'est la culture hip-hop et vous donner la possibilité de la découvrir du 13 au 20 octobre à Laval. On continuera cette émission avec la petite annonce de l'auditeur et vous verrez, c'est une voix familière aujourd'hui dans l'agité du local. Et puis bien sûr, le reportage du jour revient pour son deuxième épisode sur ce qu'est le statut des AESH, sur ce qu'est être AESH dans le département mayennais et même en France. Et on rencontre pour cela des acteurs locaux. Notre émission, comme chaque mercredi, se termine avec la chronique de l'UFC Que Choisir et Jean-Michel Guinaudeau. Et oui, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes le mercredi 9 octobre. Et cette émission commence avec vous. Alors aujourd'hui avec moi en studio, Baba Diawara, coordinateur du festival J2K qui propose cette année sa 14e édition et qui aura lieu donc du 13 au 20 octobre à Laval. Et bien pour commencer, merci d'avoir accepté mon invitation.
Tout le plaisir est pour moi.
Alors ce festival s'appelle J2K comme jeunesse de caractère. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce festival ?
Alors ce festival, c'est un festival autour des danses hip-hop principalement. Et on brode aussi autour de la culture hip-hop dès qu'on le peut et qu'on trouve des projets intéressants. Après, moi, j'ai un parcours de chorégraphe et de danseur dans la culture hip-hop. J'avais une compagnie plus jeune. J'ai formé beaucoup d'élèves à Laval. Et donc, voilà, c'est les premiers pas, moi, dans la culture. Après, j'ai une formation d'animateur, éducateur aussi à côté. Et l'idée, c'était de travailler sur un projet afin d'avoir un juste milieu entre développement de projets liés à la culture hip-hop et plus précisément la danse hip-hop. Le slogan du festival, c'est « Au-delà du divertissement ». C'est hyper important, moi, par rapport à l'autre casquette que j'ai, on va dire, d'éducateur, animateur, et j'aime bien proposer des projets qui font sens et à partir desquels voilà, on peut rebondir sur différentes choses, que ce soit des sujets sociaux, culturels, éducatifs, voilà.
On pourra revenir justement sur ton parcours qui est très intéressant, mais j'ai envie de te demander, on parle de culture urbaine, est-ce qu'il y a une définition de la culture urbaine vraiment ?
Très 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 bonne question. La culture urbaine, c'est plutôt un terme, je dirais, médiatique. Je dirais c'est un fourre-tout où on y met pas mal de choses liées à la rue, au niveau des arts de rue. Mais parfois on utilise beaucoup ce terme-là pour ne pas utiliser le terme hip-hop aussi, parce qu'à un moment donné ça faisait peur. Maintenant, c'est plus trop le cas. Le rap est la musique la plus écoutée en France. La danse hip-hop est la danse la plus pratiquée en France. Donc moi, en tous les cas, le parti pris à mon niveau, en tant qu'acteur et puis passionné de cette culture, c'est de... On est en France. L'importance des mots, c'est important. Donc non, c'est la culture hip-hop. C'est pas la culture urbaine. Donc faut l'appeler comme elle est. Et donc c'est la culture hip-hop.
Quand tu parles de l'importance des mots, justement, ce qui m'a marqué sur la très belle affiche de cette 14e Merci. Édition, c'est qu'il y a d'inscrit dessus « au-delà du divertissement ». Qu'est-ce que ça sous-entend ?
Au-delà du divertissement, c'est la volonté de porter la culture hip-hop comme elle est à son origine. C'est-à-dire que le hip-hop, ça a été une culture qui a permis d'émanciper pas mal de minorités afro-américaines, hispano-américaines. Dans des périodes un peu sombres au niveau des États-Unis avec la ségrégation raciale, etc. Et puis il y a eu beaucoup de conséquences par rapport à ça aux États-Unis. Et puis la culture hip-hop, quand elle est arrivée, ça a permis pour beaucoup de retranscrire un petit peu une certaine colère de manière assez du coup créatrice et productive à travers l'art, le sport. Et du coup, c'était comment retranscrire ce trop-plein parfois qu'il pouvait y avoir en termes d'injustice et de violence en une source créatrice. Et quand on sait comment est née cette culture-là, parce que c'est une vraie culture, quand on connaît son histoire, on essaie de la respecter, tout simplement, et essayer de rassembler, de fédérer, de faire connaître aux gens les cultures des uns et des autres, les messages des uns et des autres. Et voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, moi, dans cette culture-là, c'est de faire respecter ce message-là et puis de sortir du côté juste mainstream que peut avoir l'une des entités les plus importantes de la culture hip-hop, qu'est le rap. Mais le rap ne définit pas la culture. C'est un des éléments de la culture, mais ce n'est pas la culture. Voilà.
Oui, il y a plusieurs disciplines qui sont d'ailleurs représentées lors de cette 14e édition du festival J2K. Et donc, on peut regarder peut-être la programmation un peu ensemble. Je le rappelle qu'il a lieu du 13 au 20 octobre et il s'implante donc dans différents lieux à Laval.
Oui, on est au Théâtre de Laval, à la Salle Polyvalente, à la Maison de Quartier des Fourches et on est également au lycée Robert Buron. Ok. Et là, ça rejoint la question que tu me posais tout à l'heure concernant tout le volet au-delà du divertissement, parce qu'on a une grosse partie de spectacle qu'on propose aux scolaires. Et là, il y a une pièce qui sera accueillie, une pièce de théâtre qui n'a rien à voir avec la culture hip-hop. Mais comme chaque année, on propose énormément de choses sur des temps ponctuels qui n'ont rien à voir avec la culture, mais qui sont assez engagés en termes de, par rapport à des enjeux éducatifs et sociaux. On aime bien rebondir là-dessus. Là, c'est une pièce de théâtre autour du racisme qui sera donc proposée au lycée Robert Buron et à la Maison de Quartier des Fourches.
Voilà, donc il s'agit de la pièce des bêtises de rien du tout par la compagnie Théâtre des Turbulences qui, comme tu le disais, se jouera à la Maison de Quartier des Fourches le lundi 14 octobre à 18h30. Mais alors, si on revient au dimanche 13 octobre, la première date, il y a les battles J2K à 14h à la salle polyvalente. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Très bien. En fait, le battle, c'est l'événement le plus populaire du festival. Je pense que c'est de par le caractère performant, le côté engagé, et puis c'est spectaculaire. Donc ça plaît beaucoup au grand public. On commence en ouverture du festival avec cet événement-là, le dimanche 13 octobre. Il y a 8 équipes qui sont invitées et 8 équipes qui vont s'inscrire sur place. Donc il y a 16 équipes, donc ce sont des 2 contre 2. Donc voilà, 8e de finale, quart de finale, etc.
Les personnes qui viennent performer justement, elles viennent d'où? Elles ne viennent pas forcément d'ici?
Non, majoritairement du Grand Ouest. Donc Angers, Rennes, Le Mans, Nantes, ça peut aller jusqu'à Cholet, ça dépend des années.
Ok. Et donc l'agenda du festival propose quelque chose chaque jour. Il y a juste la projection du documentaire du mardi 15 octobre à la SCOMAM qui est annulée. Et donc on peut regarder le mercredi 16 octobre, c'est la compagnie Pyramide qui propose un spectacle pour enfants, Invite-moi, à 15h.
C'est un très beau spectacle autour de la thématique de l'exclusion. Les chorégraphes de cette compagnie, ça part de vécu par rapport à leur fils, où il y a eu au niveau scolaire des soucis liés à l'exclusion. On le sait, c'est un peu malheureusement récurrent au niveau de l'école. Tout ce qu'on peut voir ces dernières années lié au harcèlement scolaire, au sentiment d'exclusion, etc. Donc ils ont voulu en faire un spectacle. Et encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, au-delà du divertissement, ça colle pour nous, donc on programme.
Et puis ce spectacle est gratuit, c'est important de le préciser, chaque temps est soit gratuit, soit très accessible. Et alors le jeudi 17 octobre, c'est la compagnie Zarbat et le spectacle Amaltaha à la salle polyvalente à 20h.
Bravo, franchement pour l'instant c'est un zéro faute au niveau de la prononciation.
C'est ça. Donc, toujours à la salle polyvalente, c'est un spectacle plus famille, gratuit.
Gratuit, c'est un très 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 beau spectacle de marionnettes. Et c'est très rare d'avoir des spectacles autour de la marionnette en dance hip-hop. Donc là, c'est vraiment, là pour moi, au niveau de la recherche dans la programmation, c'était vraiment la curiosité d'avoir pu proposer pour une fois un spectacle de ce type-là. Donc là, c'est plutôt l'aspect esthétique qui a rentré en ligne de compte, parce que c'est très original et c'est très très beau. Et puis dans un second temps, voilà, il y a une histoire, c'est un voyage initiatique avec une marionnette qui est dans une quête identitaire, il y a des épreuves et elle doit s'accomplir pour trouver sa vraie identité.
Oui, puis j'ai pas envie qu'on s'arrête, on va continuer à regarder cette programmation le vendredi 18 octobre à 20h. C'est la soirée Cisnergie avec la compagnie Parterre et le spectacle Underdogs. Donc c'est de la danse au Théâtre de Laval.
Tout à fait. Et magnifique spectacle, Underdogs. Underdogs en anglais, c'est les laissés pour compte. Et là, ça revient à ce que j'expliquais par rapport aux origines de la culture hip-hop, où la chorégraphe Anne Nguyen Elle a fait tout un travail avec trois magnifiques danseurs très très forts qui pratiquent la technique du popping. Donc ce sont des contractions musculaires assez robotiques. Donc c'est très beau à voir et c'est pas des spectacles dans cette technicité-là qu'on voit souvent. Et puis dans la thématique, dans les années 70, quand je parlais au tout début par rapport à la culture, tout ce qui était les problématiques liées à la ségrégation et aux problèmes par rapport aux minorités aux États-Unis. Il y avait aussi, et c'était accompagné souvent, de la musique a eu un rôle important à cette époque-là. Et la musique soul, quand elle a émergé aussi, elle était très, il y avait les artistes étaient très engagés. Et donc toute la pièce, elle est axée sur cet univers-là musical soul, avec donc une performance dansée assez incroyable, parce que on peut penser des fois que la danse hip-hop avec un certain type de musique, alors que là, elle va complètement avec un style de musique par rapport au grand public qu'il n'aura pas forcément l'habitude de voir, mais par contre qui fait complètement sens avec ce que c'est que le hip-hop. C'est un mouvement qui est engagé et la revendication des minorités à cette époque-là est mise en scène par les trois danseurs sur une bande-son assez évocatrice par rapport à cette atmosphère-là dans les années 70. Donc voilà, spectacle très original et très beau.
Et puis on arrive le week-end, Baba, avec la compagnie Antoinette Gomis et le spectacle de danse Le Silence à 20h30, toujours au théâtre.
C'est ça. Un synonyme de magnifique, Margot.
Oh, bah. Splendide, somptueux, époustouflant. Faut venir.
Franchement, malheureusement, ce spectacle-là, il est déjà complet.
D'accord. Ouais.
En fait, on avait fait venir la compagnie Antoinette Gomis il y a 2 ans sur un spectacle qui s'appelait Les Ombres. Mmh. Et en fait, ça faisait hommage à Antoinette Gomis, la chorégraphe faisait hommage à son papa qui avait quitté le Mali pour venir en France en traversant le désert, en passant par plusieurs épreuves. Et encore une fois, ça fait, enfin, par rapport à l'actualité et tout ce qui se passe au niveau de la migration ces dernières années. Je peux parler aussi de ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est également la même chose. Mais ça faisait sens par rapport à tout un tas de sujets qu'on aborde ces dernières années. Et puis là, donc, Antoinette Gomis revient avec le deuxième acte, parce que ça sera un triptyque. Et là, donc, elle propose le deuxième acte qui s'appelle Le Silence. Donc, quand ses parents arrivent en France, intègrent les usines Renault, etc., au niveau de la banlieue parisienne, fondent leur famille avec la répétition, le travail à la chaîne. Donc, ça fait écho à la fois à cette première vague au niveau des immigrés subsahariens qui sont venus de ces pays-là dans les années 80 en France. Et puis ça fait aussi écho au travail aussi à la chaîne, en usine, la répétition, et puis la dureté quand on rentre à la maison, la vie de famille, etc. Donc c'est tout ça qui est traité dans ce spectacle.
Et oui, en effet. Donc malheureusement pour nous, cette date est complète. Alors on va regarder le dimanche 20 octobre, Baba. La compagnie Racine Carrée propose, elle, Je rappe poétique, je danse olympique à 16h au Théâtre de Laval.
Oui. Un projet très original de la compagnie Racine Carrée. Racine Carrée, c'est une compagnie qu'on apprécie beaucoup, qui vient quasiment chaque année au niveau du festival. Et en fait, là, il propose un projet un petit peu multidiscipline, on va dire, parce qu'en fait, il y aura du rap, de la danse, du beatboxing et un DJ sur scène. Donc, ça sera une performance où il y aura différentes esthétiques de la culture hip-hop qui sont représentées. Donc, c'était intéressant. Et dans l'approche, l'idée, c'est aussi de venir en famille pour apprécier un concert de rap sans mots plus haut que l'autre, on va dire, tout en étant engagé, bien entendu, mais en passant un bon moment en famille et puis en proposant un visage de ce que peut être un concert rap, on va dire, apprécié dans une atmosphère familiale et puis avec une originalité avec cette compagnie-là dont on ne doute pas. Et donc voilà, c'est un temps fort qui va être, je pense, très apprécié. Et j'oubliais aussi qu'il y aura en première partie, sur le samedi et le dimanche, il y aura la compagnie, l'association Cadence, qui, enfin, moi, ce sont des anciens élèves qui sont maintenant, voilà, pères de famille, parce que je donnais des cours depuis longtemps. Donc, ils ont formé une association et donc ils m'aident, moi, sur le festival, dans le bénévolat, dans l'accueil du public, dans la restauration, etc. Et puis, ils ont aussi une partie où certains gardent encore la forme en proposant des projets chorégraphiques. Donc, moi, j'ai chorégraphié pour une pièce qui s'appelle À travers l'autre et qui vont pouvoir proposer sur ces deux soirées-là. Enfin, la soirée du samedi et puis l'après-midi du dimanche. Donc, le 19 et le 20 octobre.
C'est donc la 14e édition du festival J2K. Et alors, on parle de culture hip-hop, mais c'est une culture qui, j'imagine, a évolué au fur et à mesure du temps, qui a subi aussi les influences de son époque.
Complètement. Là, comme tu le disais, c'est la 14e édition du festival. Moi, les premiers cours que j'ai commencé à donner à Laval, malheureusement, ça ne va pas me rajeunir, mais c'est comme ça. C'était en 98-99. Donc on est là depuis plus d'une vingtaine d'années. On a essayé de donner beaucoup d'informations à ce public-là pour essayer de démocratiser cette culture, donner des clés de compréhension. Et honnêtement, maintenant, le hip-hop, il est partout, dans les spots de pub, dans la mode, dans le sport. Enfin bref, le hip-hop est vraiment partout. Donc là, dernièrement, ça a intégré les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Et puis comme je disais tout à l'heure, au niveau de la musique et de la danse, sans aucun doute, ce sont la musique les plus écoutées et la danse la plus pratiquée. Après, avec des bons côtés et des mauvais côtés. Parce
oui,
que je suis pas...
Elle a aussi été récupérée et un peu vue comme quelque chose de commercial. Alors il y a toujours, faut effectivement faire la part des choses, à mon avis, entre différents courants, différents mouvements qui se mettent en place, comme dans tout univers musical ou artistique.
Non, ouais, il y a de ça, mais il y a aussi le côté où ce que peut renvoyer, par exemple, parfois la musique rap, hein, ce qu'elle peut renvoyer en termes aussi d'imagerie assez négative. Et c'est quelqu'un qui est passionné par la culture qui vous le dit. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles nous, on est moins OK là-dessus, parce qu'on travaille en direction des jeunes et des familles. Et en tant qu'éducateur, on voit aussi l'impact que ça peut avoir en le mimétisme chez certains jeunes. Donc parfois, ce truc-là, quand il est aussi poussé à outrance au niveau des médias, avec une certaine visibilité d'un certain type d'artiste, voilà, ça ne fait pas que du bien.
Mais je retiens surtout ce que tu nous disais au début de cet entretien, c'est que la culture hip-hop, finalement, c'est aussi vecteur d'émancipation. Elle permet aussi de s'identifier, de se construire.
Carrément, à travers la danse, en tous les cas, moi, je sais que... avec tous les élèves que j'ai pu avoir, il y a quand même une demande d'effort et d'aller vers l'excellence dans la pratique. Il y a beaucoup de nos jeunes, de nos élèves qui ont gagné des concours chorégraphiques, etc., à des niveaux quand même assez intéressants. Après, on n'en fait pas forcément étalage parce que ce n'est pas le plus important pour nous, mais c'est important de les confronter des fois à des compétitions comme celle-là pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Aussi pour essayer de voir comment ils pouvaient se fédérer en groupe vers un objectif commun. Donc ça, c'était toujours des aventures humaines qui étaient aussi intéressantes. Et après, c'était de voir comment on pouvait transformer leur interaction qu'ils avaient dans le cadre artistique, sportif avec nous, comment ils pouvaient retranscrire ça dans la vie de tous les jours, au quotidien. Et là, c'est plutôt le volet éducation qui est rentré en ligne de compte, où on a fait pas mal de projets aussi humanitaires avec certains jeunes. On est parti... Dernièrement, ça commence à remonter, mais c'était il y a 4-5 ans qu'on est parti au Cambodge sur un gros projet humanitaire et où on a mêlé à la fois la partie hip-hop avec une représentation de spectacle là-bas et en même temps un projet humanitaire où on a ramené des lunettes en lien avec une ONG là-bas pour des personnes âgées qui n'en bénéficiaient pas. On est parti faire un échange culturel en Grèce avec différents jeunes là-bas via les comités de jumelage. On est parti en Allemagne aussi. Donc... Et tout ça s'est rendu possible grâce aux valeurs qu'on a essayé de mettre, en tous les cas, nous, dans l'apprentissage de la danse. Parce que pour nous, ce n'était pas une fin à soi, c'est juste un point de départ, en fait. Mais voilà.
J'imagine qu'il y a eu des moments particulièrement forts et touchants pour toi depuis ces 14 années.
Il y en a beaucoup. Ceux que je viens de te citer là, ils ont été très, 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 très marquants. Et puis, il y a aussi des moments marquants quand... Oui, comme je te disais, les jeunes qui m'entourent aujourd'hui, qui ne le sont plus, parce qu'ils ne doivent pas avoir loin de ton âge. voilà, il y en a, ils sont posés, ils ont leur famille, ils ont des métiers, où ils se sentent accomplis. Dernièrement, j'avais eu le message d'un de mes élèves qui était devenu chirurgien, qui est maintenant du côté de Bordeaux, et qui, dans le cadre de son mémoire, m'invitait. Et me citait dans son mémoire par rapport à tout ce qu'il avait appris dans le cadre des projets avec nous. Et ça, j'en ai beaucoup d'exemples comme ça d'élèves. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, c'est pas on fait pas de com là-dessus, mais on sait pourquoi on fait les choses dans ce sens-là. C'est pas vendeur entre guillemets. C'est pas facile de pas prendre le chemin juste du clinquant, parce que parfois ça nous ferme aussi des portes pour aussi promouvoir ce beau projet qu'est le Festival J2K. Mais on sait que sur le terrain, sur le long terme, on sait qu'on est sur le bon chemin en tous les cas. On sait ce qu'on fait sur le long terme, que ça a plus d'effet.
Ça a du sens. Alors pour cette 14e édition du Festival J2K, vous ne recherchez plus particulièrement de bénévoles. Par contre, si tout ce qu'on vient de se dire fait écho à nos auditeurs, il ne faut pas hésiter à vous contacter pour la prochaine édition.
Pas de souci. On cherche toujours des nouveaux bénévoles chaque année, mais sans aucun souci.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation sur le site internet du Festival J2K ainsi que sur les réseaux sociaux.
C'est ça.
On vous retrouve. Merci beaucoup à Baba d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Bonne journée.
Et voilà, j'ai envie maintenant qu'on passe à la petite annonce de l'auditeur.
Allô, Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner ?
Dis donc, oh !
Allô ? C'est Guy ? Bah...
Aujourd'hui, la petite annonce au bout du fil est celle d'une personne familière dans cette émission, mais je l'appellerai un peu autrement. Vous la connaissez en tant que Maître Mignard, vous l'aimez beaucoup aussi. Sachez qu'en tant que Priscilla, elle est tout autant merveilleuse. Bonjour Priscilla, je vous prie de m'excuser pour toutes ces manières. J'essaie d'être au plus proche d'une certaine justesse et je ne veux pas me tromper sur vos différents statuts.
Ah non, mais là, c'est merveilleux. Vous pouvez m'appeler déesse.
Alors, l'auditeur de l'autre radio le sait, vous êtes une femme aux multiples facettes. Et aujourd'hui, vous nous appelez pour qu'on note précisément deux dates dans notre agenda. Dites-nous en plus, Priscilla.
Ah mais oui, impérativement. Il faut que vous notiez les 16 et 18 octobre. Ce sont les dates auxquelles le Borderline Comedy Club, donc Comedy Club de stand-up, donnera deux soirées. Le 16 octobre au bar L'Atelier rue des Mêles à Laval et le 18 octobre au Beauty Bar qui se situe Place Saint-Hugal, face au tribunal. Donc du coup, j'ai beaucoup de clients qui pourront venir me voir, pas de souci. Au contraire.
Vous faites tout en proximité. Combien de personnes on pourra découvrir sur scène ?
Alors, au bar L'Atelier, 5 artistes et 4 au Beauty Bar qui est plus intimiste.
Et alors, c'est toujours des locaux ?
Alors, on est tous un peu locaux, c'est sûr. Alors oui, il y aura pas mal de... Il y aura quelques Mayennais, il y aura entre autres Cécile Braise, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, qui est une Lavalloise. On aura des gens aussi de Rennes, de Fougères, ça reste très local.
Cécile Braise n'est en effet pas une inconnue pour le fidèle auditeur de l'autre radio, qui la connaît peut-être par le son de sa voix et son humour décapant dans l'émission Sorcière, que l'on retrouve une fois par mois. Et donc voilà, on a maintenant le plaisir de pouvoir découvrir Cécile sur scène, à vos côtés Priscilla. Et donc voilà, les deux dates à noter pour pouvoir profiter du Borderline Comedy Club, c'est donc le 16 octobre à l'Atelier à Laval et le 18 octobre au Inclusive Beauty Bar en face du Palais de Justice. Merci beaucoup Priscilla d'avoir été avec nous au bout du fil pour cette petite annonce.
Mais de rien, je vous en prie ma chère Margot.
Et donc on arrive au deuxième et dernier reportage qui revient sur cette rentrée scolaire 2024. On fait un focus aujourd'hui sur les missions et le statut des AESH, certainement trop méconnu malgré les revendications. Je ne crois pas que l'on perçoive assez l'importance et le quotidien de ces femmes essentielles au sein des classes de nos enfants. Pour cela, on a été rencontrer des acteurs locaux et on commence par l'inspectrice académique de la Mayenne, Brigitte Lacoste. Écoutez.
Les AESH sont des personnels du ministère de l'Éducation nationale, donc leur statut, alors bien sûr, on peut toujours espérer hein, encore une amélioration, mais il y a quand même eu des progrès parce qu'ils bénéficient maintenant de possibilités d'évolution. Voilà, les AESH peuvent accompagner les enfants sur la pause méridienne, donc maintenant c'est l'État qui prend en charge les AESH pendant la pause méridienne, ce qui fait qu'on augmente la quotité et donc ça permet une rémunération qui est un petit peu supérieure. Et puis donc les AESH AESH bénéficient de formation. Et ça, c'est très important aussi. C'est un progrès très important des dernières années. Dans le département de la Mayenne, le nombre d'AESH a été multiplié par un peu plus de 3 entre la rentrée 2017 et la rentrée 2024. Donc, c'est quand même un effort important du ministère de l'Éducation nationale parce que l'accueil des enfants en situation de handicap, c'est vraiment une priorité du ministère de l'Éducation nationale.
Steph Godin, secrétaire départementale du SNUDIFO 53. Elles ne sont toujours pas considérées comme des professionnelles par le gouvernement, puisqu'elles n'ont pas de statut de la fonction publique. Elles ont un salaire qui les place bien souvent sous le seuil de pauvreté. Ce seront à 98% des femmes qui sont obligées, au regard de leur situation extrêmement précaire, de cumuler des emplois, eux aussi précaires. Nous, ce qu'on revendique, effectivement, c'est un vrai statut, un vrai salaire pour qu'on puisse avoir cette reconnaissance professionnelle qui est essentielle pour l'école. L'école doit pouvoir se doter de professionnels reconnus et à travers ça, c'est le statut et c'est le salaire. Qu'elle puisse avoir, je vois sur le temps de présence élève sur l'école, c'est 24 heures, que ce soit considéré via le statut comme un temps plein, payé à 100% et pas à 60% comme c'est le cas majoritairement aujourd'hui. Ce sont nos collègues, moi je suis enseignant, je suis professeur des écoles et on travaille avec ces collègues-là. On a besoin des AESH pour pouvoir fonctionner dans les écoles.
On retrouve maintenant Muriel Lageste, AESH au sein de l'école de Port-Briet et représentante syndicale FO, qui revient aussi sur le statut des AESH.
Donc c'est un temps partiel imposé en fait. Donc en gros, les AESH touchent en moyenne 900 euros, 950 euros par mois. Ce qui explique que, par exemple, toutes mes collègues à Saint-Pierre-la-Cour font la garderie le matin et le soir, d'autres la cantine le midi, d'autres le ménage après à la sortie de la classe. Moi-même, j'ai une autre activité. Des collègues aussi le mercredi et pendant les vacances qui ne se reposent pas puisqu'elles sont en centre de loisirs. Donc, on est obligé de cumuler plusieurs emplois pour réussir à vivre. Ce qui explique aussi le manque d'AESH. Et le nombre de démissions criantes d'année en année. Donc, il manque des AESH, on ne les paye pas. Et quand il y a des AESH, effectivement, il manque l'enveloppe parfois budgétaire au niveau pour en recruter suffisamment.
Muriel, est-ce que vous pouvez m'expliquer vos missions au quotidien, ce que ça représente ?
Ça dépend vraiment des enfants. Moi, souvent, là, avec l'enfant en question, par exemple, je suis souvent au fond de la classe à observer. Le but du jeu, c'est quand même de rendre les enfants autonomes. Donc, on ne doit pas faire à leur place. On doit les aider, par exemple, à se mettre au travail quand ils ne le font pas d'eux-mêmes. Ça peut être très long, donc on va aller leur dire, voilà, se mettre à côté d'eux pour qu'ils se mettent en condition de travail. Il y a des enfants qui ont besoin, effectivement, qu'on leur réexplique les consignes. Donc, on va réexpliquer la consigne, mais ça dépend vraiment des besoins des enfants, quoi. Il y a des enfants qui comprennent assez vite, mais c'est plus un problème de comportement. Donc là, il va falloir parfois sortir de la classe pour qu'ils puissent se poser, ou alors rester dans la classe et puis faire un temps calme, je ne sais pas, prendre un puzzle, 10 minutes, le temps de redescendre un petit peu. On a des enfants qui peuvent monter vite en pression, partir dans des colères. Donc on a tout ce rôle d'apaisement, d'écoute, pour faire en sorte que lui puisse ensuite, entre guillemets, quand même travailler, puisqu'on est à l'école. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ne pas gêner non plus les autres dans la classe. Et puis, permettre à la maîtresse, effectivement, d'avancer avec sa classe, quoi. Donc, la maîtresse propose le travail aux enfants. Et puis, nous, on essaye alors d'être discret, de ne pas gêner le cours, mais de faire en mieux pour que l'enfant puisse suivre, faire son travail quand c'est possible. Si c'est pas possible, le sortir. Et puis, avoir d'autres activités.
Oui, vous vous adaptez finalement.
On s'adapte plus. Donc, c'est vraiment un travail, effectivement, de confiance aussi avec les maîtresses et de relations. Il faut dire les choses, quoi. Il faut savoir aussi, en tant qu'AESH, se remettre en question, évidemment. Écouter la maîtresse, c'est elle qui gère sa classe, quoi. Et puis, de faire au mieux en fonction de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on devine. Après, l'enfant, on voit très bien quand on le connaît. Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Des fois, une simple présence accroupie de l'enfant peut simplement l'apaiser. Et puis parfois, il faut carrément l'extraire de la classe, proposer autre chose, sortir, jouer au ballon.
Vous croisez d'autres AESH au quotidien, mais vous avez également des retours en tant que représentante syndicale.
Je reçois des coups de fil en tant que représentante FO d'AESH, parfois très fatiguée, parfois désabusée. Il y a des gens qui démissionnent. Il faut savoir quand même qu'il y a des AESH qui peuvent subir des violences physiques, verbales, bon, ça c'est classique, mais ça arrive, violences physiques, enfin donc c'est... Oui, oui, non, c'est pas forcément simple.
Et alors Muriel, pour terminer, et avec vos mots, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous demanderiez en tant qu'AESH pour revaloriser ce métier ?
Bon, évidemment, on va pas se mentir, hein, si on gagnait quelques centaines d'euros de plus, ça aiderait, parce que 900 euros, c'est clair qu'on peut pas vivre, enfin personne ne peut vivre... comme ça. Il faudrait un recrutement d'AESH, et il en manque plus d'une centaine, ne serait-ce que dans la Mayenne, pour que les besoins des enfants soient vraiment reconnus, enfin un statut, parce qu'effectivement, quelqu'un qui décide de démissionner ou qui peut éventuellement, si problème, être licencié, n'a pas droit forcément au chômage, donc on a droit à rien, droit de se taire. Donc effectivement une reconnaissance et surtout une formation aussi, ça pourrait être très intéressant et c'est lié au statut en fait. Si on reconnaît un statut aux AESH, une utilité quelconque, une formation digne de ce nom avec effectivement des... oui, de la réelle formation avant de commencer, pendant, enfin, il n'y a pas non plus de remplaçant chez les AESH, donc c'est-à-dire qu'on s'interdit d'être malade, hein. C'est clair qu'on va bosser si on sait qu'on a un enfant avec des gros problèmes de comportement, si on est malade, bon si on est couché, voilà, on sait très bien que la journée va être compliquée à l'école, donc c'est déjà la catastrophe chez les enseignants peu remplacés, donc là les AESH, il n'y en a pas du tout. Donc il faudrait effectivement un recrutement, une enveloppe digne de ce nom. On connaît les besoins, on sait que ça ne va pas aller en s'améliorant puisqu'ils coupent, ils ferment de plus en plus les établissements spécialisés. Donc c'est toute une question de politique, de choix, de budget. Mais on parle d'enfants en situation de handicap, on parle de besoins dans l'école. Et puis bah voilà, l'école de la réussite effectivement et de l'inclusion scolaire. Mais donnez-nous les moyens et là on fera ce qu'on pourra et au mieux quoi.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et donc un mercredi sur deux, on retrouve un fidèle chroniqueur de cette émission. Il s'agit de Jean-Michel Guinaudot qui représente ici l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
La chronique du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, vous êtes bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne et vous souhaitez alerter les consommateurs sur la souscription d'assurances inutiles.
Bonjour Margot. En effet, qui ne l'a pas constaté, on ne peut acheter un téléphone, un appareil électroménager dans une grande surface sans se voir systématiquement proposer une extension de garantie ou une assurance, avec la promesse d'une réparation ou d'un remplacement gratuit en cas de panne, casse, perte ou vol, etc.
Alors ça paraît être une bonne protection.
Mais c'est très cher. En moyenne, cela coûte 20% du prix de l'appareil. 7 euros par mois, c'est pas beaucoup. Mais pendant 5 ans, pour une tablette, ça fait quand même 420 euros. Et les exclusions sont nombreuses. Sans compter, souvent, des déductions pour la prise en compte de la vétusté ou un montant limité du remboursement. Un exemple, dans un cas, le vol n'était compté que s'il avait eu lieu dans un local dans lequel le propriétaire était présent.
Oui.
Une enquête de Que Choisir, confirmée par les vendeurs, montre que plus de 80% des appareils fonctionnent sans problème au-delà de 5 ans et que le coût moyen de la réparation est bien inférieur au coût de cette extension de garantie. Et rappelons-le, tout appareil acheté neuf chez un professionnel bénéficie d'une garantie obligatoire de 2 ans à mettre en œuvre par le vendeur.
Si l'on a souscrit une telle assurance, comment est-ce qu'on peut la résilier ?
Alors, il faut savoir que d'une façon générale, ces contrats sont résiliables sans frais à tout moment après la fin de la première année. Et en ce qui concerne leur droit de rétractation, il est de 14 jours dans le cas d'un achat lors d'un démarchage. Mais pour ce qui est des assurances des produits mobiles, comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, la réglementation a récemment été modifiée. Si l'assurance a été souscrite lors de l'achat, le délai de rétractation est porté à 30 jours à compter de la date du paiement de la première échéance. Ainsi, si la première mensualité a été offerte à titre commercial, ce qui est fréquent, le consommateur dispose alors de 2 mois pour se rétracter. comme il faudra, le cas échéant, prouver que l'on a demandé la rétractation, il faut bien entendu le faire par courrier recommandé ou par mail, qui sont aussi valables en les conservant. On sait qu'un simple appel téléphonique ne laisse pas de traces. Il faut donc éviter de prendre cette seule formule.
Est-ce qu'il y a des risques d'arnaque sur ces assurances ?
Et comme toujours, il faut être très attentif aux mentions portées sur les contrats. Par exemple, la date. Si le contrat est daté du lendemain de l'achat, le consommateur est piégé pour au moins un an, car il ne peut pas se rétracter pour une souscription après l'achat. Et ça, c'est les vendeurs quelquefois qui trafiquent. Enfin, certains vendeurs malhonnêtes souscrivent des contrats d'assurance sans l'accord du consommateur, qui ne s'aperçoit de sa situation qu'au vu de son retrait sur son compte bancaire. Il est donc important de vérifier très régulièrement les opérations qui sont effectuées.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour ces informations. Rappelez-nous peut-être les coordonnées de votre association.
L'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 43 67 01 18 par mail sur contact@mayenne.ufcquechoisir ou sur notre site internet mayenne.ufcquechoisir.fr pour un renseignement, un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier et bien sûr, nous proposer vos services. À bientôt.
Merci Jean-Michel. Voilà, l'émission s'arrête ici. Merci beaucoup à Baba Diawara d'avoir fait ce passage dans notre studio. Merci à Jean-Michel Guinaudot pour la chronique du consommateur. Et alors, vous ne la connaissez pas vraiment encore, mais Adèle est actuellement en stage à l'autre radio à nos côtés. Et donc Adèle, je t'ai proposé de me rejoindre pour annoncer à nos auditeurs ce qui les attend sur nos ondes.
Et oui Margot, et bonjour à l'auditeur de l'autre radio.
Alors Adèle, qu'est-ce qu'on écoute à 19h ?
Alors à 19h, c'est l'émission Novorama qui chaque semaine propose une sélection de nouveaux albums indie rock, pop électro, avec des chroniques et des interviews d'artistes émergents.
Merci beaucoup Adèle, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. On sera avec Jean-Yves Chevalier de l'Université Populaire du Savoir Partagé à Château-Gontier. On échangera ensemble sur les prochaines thématiques abordées sous forme de conférence. D'ici là, soyez bons, soyez bienveillants, en bref, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.